Gloire à Dieu. C'est formidable. Merci à Jérémy pour ces chants qui sont très intéressants. J'ai noté, notre frère disait ceci en rappelant ce cantique, je n'ai pour toute espérance le sang de Jésus. Mettez votre espérance en Jésus. Ce chant qui dit ceci, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancellera. C'est formidable. Vous encouragez à ce que vous puissiez vous confier en Jésus. Titre du message depuis hier après-midi, c'est l'espoir. L'espoir. Bien, je pensais à ce proverbe qui dit ceci, un proverbe du monde, qui dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ça. C'est juste. Même si c'est un proverbe du monde, mais c'est vrai, si il y a votre cœur qui bat, il y a le sang qui coule dans vos veines, et même si vous pouvez être malade, très malade, s'il y a le sang qui coule, il y a la vie, il y a de l'espoir et vous pouvez continuer à espérer. Et ce proverbe encourage à ne pas désespérer, à ne pas nous décourager, à ne pas avoir peur du lendemain, ne pas avoir peur de l'avenir, ne pas avoir peur de la maladie et même de la mort. À quoi bon espérer si chaque jour vous ne pensez qu'à la mort? C'est triste, c'est avoir une vie bien bien triste. Notre frère l'a cité, je vais le relire, c'est un verset assez très intéressant qui parle de la foi. Hébreux chapitre 11 verset 1 dit ceci, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Formidable, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas une religion, ce n'est pas simplement parce que je viens à l'église que ma vie va changer, mais parce que j'aurai le courage de faire cet acte de foi, croire que Jésus est le seul capable de changer mon cœur, de changer ma vie. Jésus se présente comme la lumière et dans l'évangile de Jean, il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est cet encouragement en vérité que je voudrais mettre sur votre cœur, que vous puissiez saisir à votre tour la lumière qui se trouve en Jésus. À l'époque de Jésus, il y a bien des hommes et des femmes qui le suivent. Il y a, c'est vrai, ces hommes religieux et autres qui vont sans hésiter rejeter le Fils de Dieu. D'un côté, et puis de l'autre côté, il y a ces hommes, ces femmes qui ils savent qu'il leur manque quelque chose. Souvent parce qu'ils sont malades, découragés, c'est vrai, malades, aveugles, boiteux, lépreux. Mais eux, ils vont faire cet acte de foi, ne pas suivre ces hommes religieux, mais aller dans la direction de Jésus. Dans l'évangile de Marc, chapitre 6, que nous allons lire ensemble, il parle de ces gens, verset 34. Jésus y voit, c'est vrai, des hommes et des femmes qui les comparent à des brebis qui n'ont pas de berger, qui n'ont pas de berger. Des brebis perdues, égarées, malades. Les gens que nous allons lire par la suite à partir du verset 32, sont des gens qui leur manquent quelque chose. Des gens qui ont besoin d'un nouvel espoir, d'espérer en quelque chose de nouveau dans leur vie. Des brebis, des gens, peut-être comme quelqu'un ici, cet après-midi, avaient besoin non pas d'une espérance virtuelle, mais avaient besoin d'une espérance vivante, une espérance glorieuse. Et je voudrais vous dire la même chose. Le Seigneur aurait pu leur dire, n'ayez pas peur du lendemain. N'ayez pas peur de la mort et même de la vie, parce que la vie est difficile et la vie est accompagnée souvent d'échecs et de découragements. Mais que votre espérance, à votre tour, repose sur Jésus seul. Apôtre Paul dira ceci, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, et ça c'est vrai. Je vais lire avec vous ces quelques versets. Dans Marc chapitre 6, verset 32, est écrit ceci. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Verset 35, il y a des mots que je voudrais mettre en évidence que l'on verra plus tard. Verset 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Verset 36, renvoie-les. Afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons, ceux qui avaient mangé, les pains étaient 5 000 hommes. Amen. Extraordinaire ça. On peut faire un calcul vite fait. 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, on arrive très vite à 10 000, peut-être même 15 000 hommes. Ça fait quoi? Ça fait un stade de foot. Imagine une réunion d'évangélisation avec 15 000 hommes et femmes, ça fait du monde à nourrir. À la fin de la réunion, on se suit et puis on va tous manger ensemble. Je reviens sur notre verset 34, qu'il y a cette grande foule qui suit Jésus et le Seigneur, ému de compassion, va continuer à enseigner cette foule sur beaucoup de choses. Sauf que le temps avance et ces gens qui suivent Jésus vont avoir faim. Pour répondre aux besoins pressants, les disciples vont avoir cette bonne idée. Renvoie-les. Renvoie-les. Envoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Ça, c'est avoir du bon sens, c'est vrai. Il fallait bien faire quelque chose. Il y a un mouvement, il y a quelque chose, il faut les renvoyer. Renvoie-les. Il n'y avait pas assez à manger. Il n'y a pas assez à manger. Dit autrement, allez-vous-en, débrouillez-vous, faites de votre mieux. Rentrez chez vous. C'est une réaction humaine. N'importe qui aurait réagi de cette façon. C'est la réaction du monde. Il vous renverra chez vous. C'est la réaction de la religion aussi qui fera qu'il y a ces hommes et ces femmes qui s'attachent à une certaine forme de religion et puis je vais à l'église en pensant que Dieu sera satisfait de ma foi. Et à la fin, on vous renvoie chez vous, à vide. Les amis aussi, malgré de bonnes intentions, peuvent vous aider, viendra à votre secours, mais tôt ou tard, nous sommes des hommes, et tôt ou tard, même les amis ne sauraient combler le vide qu'il peut y avoir dans votre cœur. Il fallait faire quelque chose. Et la bonne nouvelle est que la solution se trouve en Jésus. Et c'est le message de l'évangile. Jésus se présente, Jésus ne renvoie jamais celui qui a faim et soif de lui. Il dit ceci, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu redonne de l'espoir. Nous l'avons chanté et c'est vrai. À l'espoir à celui qui s'approche de lui. Il y a un homme qui dira ceci dans un psaume, le roi David. Je vous lis ces quelques versets, ces 4 versets. Elle dit ceci dans un psaume, « J'avais mis en Dieu, en l'Éternel, mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. » On aurait pu dire une nouvelle espérance, une louange à notre Dieu, beaucoup l'ont vu, ont vu de la crainte et ont eu de la crainte. Ils se sont, et c'est moi qui rajoute ceci, à leur tour, confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Je voudrais vous dire la même chose cet après-midi. Heureux serez-vous, heureux l'homme, la femme qui trouve sa confiance en Jésus et qui ne se tourne pas vers des fables, vers le monde, vers une nouvelle pensée philosophique en pensant que cela, en cela je trouverai du repos. Mais heureux celui qui trouve de l'espoir en Dieu, en Jésus-Christ. Maintenant, il fallait bien faire quelque chose. Il fallait bien proposer une idée, les renvoyer peut-être, sauf que les renvoyer où ça ? Où ça ? Les renvoyer loin de l'eau de vie, les renvoyer loin du pain de vie. Et c'est ce que c'est. Et Jésus est l'eau de vie. Il est le pain de vie. La question que nous allons se poser cet après-midi est celle-ci. Quelles sont les raisons qui ont poussé les disciples à agir ainsi ? Pourquoi vont-ils renvoyer la foule ? La première raison est parce qu'il n'y avait rien à manger. Là, je me répète, mais c'est une solution humaine. Il fallait se mettre en mouvement, faire quelque chose, bouger la foule, aller dans les campagnes et les villes des environs pour acheter à manger. Les disciples ne vont pas, vont manquer de foi. Ils ne vont pas croire au miracle parce que, au risque de vous déplaire, mais ce n'est pas dans le monde que vous pourrez trouver de l'espoir. Ce n'est pas dans le monde que se trouve, que vous pourrez y trouver le repos, ni la paix, ni la joie. Ce n'est pas dans le monde. Quelqu'un ici pourrait lever la main, dire ceci, mais ce n'est pas totalement vrai. Quelqu'un pourrait se dire, oui, mais moi, quand je regarde, j'allume la télévision et que je regarde mon émission préférée, j'arrive à me reposer, à me détendre. Quand j'entends parler de certaines associations qui viennent en aide aux plus démunis, c'est bien, je retrouve de l'espoir. Mais malgré tout, individuellement et en étant sincère avec soi-même, si vous arriviez à voir le vide qu'il y a dans votre cœur, voir que il me manque quelque chose, il me manque de l'espoir, que le monde ne peut pas me rassasier, et malgré tout, j'ai encore faim. Dans l'évangile de Jean, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en Jésus, n'aura jamais soif. » Si vous avez faim et soif, si vous voulez retrouver la vie que vous auriez perdue, la seule solution, où il n'y en a pas d'autre, elle se trouve en Jésus seul. La vie que le monde vous a volée, peut-être, vous qui entendez ce message, elle ne peut se trouver qu'en Jésus seul. C'est facile à dire, c'est vrai, mais mettre sa foi en action, c'est cela. Seigneur, je te remets toutes choses. Je remets ma vie entre tes mains, ma confiance, je te fais confiance. Là où il n'y a plus d'espoir, Jésus est capable de vous redonner de l'espoir, de remettre de l'ordre dans une vie en désordre, de réparer une vie qui aurait été brisée, et même renverser ce que des médecins auraient jugé bon, que c'était irréversible. Le texte que nous avons lu se termine ainsi, verset 42, « Tous mangèrent et furent rassasiés. » C'est ce que le Seigneur promet à celui qui s'approche de lui. Et ça, c'est la foi en action. Vous serez rassasiés. La seconde raison pour laquelle les disciples vont renvoyer la foule est que le lieu était désert. Le désert, c'est l'image de celui qui est isolé, de celui qui est seul dans la vie. Des exemples, nous en avons, j'en ai noté quelques-uns. C'est l'exemple de celui qui est malade. Malade physiquement, malade psychologiquement, et puis on se retrouve brusquement isolé, seul. Seul avec sa souffrance. J'ai noté celui ou celle qui est célibataire et qui se sent aussi seul, seul dans la vie, avec personne qui partageait ses souffrances. Il y a aussi celui Il y a l'âge aussi qui monte, celui ou celle qui est âgé et qui se retrouve aussi seul. C'est aussi celui qui est dans le deuil, qui a perdu un être cher et qui du jour au lendemain va se retrouver seul. La traversée du désert, c'est quelque chose qui arrive à chacun de nous, qui peut arriver à vous aussi. Traverser le désert peut être une raison pour que je puisse prendre conscience que j'ai soif. J'ai soif et que j'ai besoin de plus qu'un verre d'eau, plus qu'une bouteille d'eau. J'ai besoin de quelque chose, de quelqu'un qui puisse me rassasier. Et cette personne se trouve en Jésus. Il est avec lui, vous n'aurez jamais soif. Peut-être avez-vous soif d'un renouveau parce que votre vie est desséchée, que votre vie est devenue comme un désert sans fin. Alors n'hésitez pas, venez à Jésus. Je voudrais vous citer, donner l'exemple de cette femme. Elle s'appelle Agar. On l'appelle comme ça, Agar, l'Égyptienne. Le texte se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 21. Ne cherchez pas, je vais vous raconter cette histoire brièvement, qui est intéressante, me semble-t-il. Suite à une dispute, un matin, cette femme, Agar, sera chassée du camp. On va tout de même, avant qu'elle parte, on va lui donner quand même du pain et une outre d'eau, une gourde avec de l'eau, pour elle et pour son fils. Entre guillemets, c'est ce que le monde vous offrira avant de vous rejeter. Vous donnez, peut-être pour se donner bonne conscience, vous donnera ce qu'il faut, histoire de vous aider, vous sortir de vos douleurs. Pour revenir à l'exemple d'Agar, cette femme, avec son fils, va partir dans le désert de Beersheba. Et dans ce désert de lassitude, comme dit ce cantique, il va leur manquer de l'eau. Et dans son désespoir, elle va abandonner son fils. Elle va l'abandonner sous un buisson. Elle n'a plus d'eau, elle n'a plus rien. Et là, elle va pleurer. Elle va pleurer certainement toutes les larmes de son corps. La seule eau qu'elle a dans le corps, elle va le verser. Et elle va prier. Elle va prier le Dieu Tout-Puissant. Même si Agar et son fils ne faisaient pas partie du plan de Dieu au début, mais Dieu va leur faire grâce. Il va entendre la voix de l'enfant et entendre la souffrance de cette femme. Je vous lis Genèse chapitre 21 verset 17. « Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire l'enfant. Amen. Une histoire qui se termine bien. Humainement, là aussi, la situation était critique. Il n'y avait aucun espoir. C'était terminé pour cette femme. Et il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus qu'à attendre la fatalité et la mort. Et Dieu va répondre, Dieu va agir, lui donner ce qu'il lui faut. C'est l'espoir qui renaît, c'est l'espoir qui revit. Avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous y retrouverez ce qu'il vous manque dans la vie. Et enfin, la dernière raison pour laquelle ses disciples ont choisi de renvoyer la foule, c'est que l'heure était déjà avancée. L'heure est déjà avancée. C'est l'image de la vie qui avance. C'est l'horloge qui fait tic-tac, tic-tac. C'est une histoire qui est près de s'achever. C'est terminé, c'est trop tard. C'est terminé, c'est trop tard. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà entendu. Entendu de la bouche d'un proche, d'un ami, même du corps médical, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir, votre cas est critique, il n'y a plus rien à espérer. Rentrez à la maison, rentrez chez vous, parce que c'est la seule solution à faire. Humainement, on ne peut rien faire pour vous, rentrez. avec de l'humilité, parce que je vous en parle, je vous le dis, pour vous encourager, mais rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Ça, c'est vrai. Nous l'avons lu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que la vie n'est pas facile. La vie est une épreuve. La vie est faite ainsi. La vie, il y a un début et il y aura une fin pour chacun de nous. La question est, quelle sera la fin de votre histoire? Une fin glorieuse ou une fin malheureuse? Si je vous dis qu'il existe un paradis, il existe aussi un enfer. Si la vie existe, la mort existe aussi. Mais alors, la vie, la vraie vie, elle se trouve en Jésus, elle se trouve en Christ. Choisissez-la, faites le choix de suivre Jésus-Christ. C'est la vie est accessible à celui qui décide de saisir Jésus par la main. Personne ne vous y obligera et il y a urgence de faire la paix avec Jésus, urgence de le choisir, de le rencontrer. En y réfléchissant cet après-midi, je repensais à cet exemple. Je pense que vous l'avez déjà entendu, puisque c'est ici que je l'ai entendu, cette histoire, l'histoire d'une réunion d'évangélisation comme celle-ci. Il y a, pour vous dire que la vie ne tient qu'à un fil et qu'il y a urgence de rencontrer le Maître, de rencontrer Jésus. Suite à une réunion d'évangélisation, d'annonce de l'Évangile comme celle-ci, il y a le prédicateur qui prêche l'Évangile. Et en face de lui, il y a des hommes, des femmes qui entendent ce message, des hommes, des femmes. Et à l'extérieur, il y a un homme avec sa moto, assis sur sa moto et qui gronde sa moto, qu'il fait tourner sa moto à grand bruit, essayant de décourager le prédicateur. Et il continue le prédicateur et se trouve un peu découragé, pas découragé, mais déconcentré. Il continue. Le motard dehors, voyant que ça ne change rien, brusquement on lève la main et pose une question au prédicateur. Et sa question sera celle-ci. Où se trouve l'enfer? Le prédicateur, un peu excédé, lui répondra, ben continuez tout droit. L'histoire terminera ainsi qu'au bout du chemin, le motard terminera sa course sur un mur. La vie ne tient qu'à un fil. Accepter Jésus-Christ, ce peut être aujourd'hui et pas demain, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera, de ce que ma vie sera demain. Après un virage, que peut-il arriver? La vie ne tient qu'à un fil, mais vous rappelez ceci, encore une fois, l'espoir se trouve en Jésus. Il est celui qui est capable de vous redonner la vie, de l'espérance et vous aider à continuer. Seule chose qui peut vous empêcher d'aller au paradis, le paradis, c'est-à-dire de ce que la Bible appelle la vie éternelle, une vie où la mort n'a plus sa place. La seule chose qui peut vous empêcher d'y aller porte un nom, c'est le péché. Le péché, c'est la désobéissance, c'est la rébellion à Dieu, c'est celui qui, comme ce motard, va se dire, ben, votre Dieu, ça ne m'intéresse pas. Votre Dieu, je n'ai rien à faire. C'est pour les faibles, celui qui rejette Dieu. L'apôtre Paul dira ceci, mais alors il faudra accepter le salaire qui va avec, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous voulez vivre dans le péché, c'est votre droit, c'est le choix de chacun de se dire, ben ma foi, le péché, c'est pas grave, je me plais dans mon péché, et dans la vie que je mène, vivre dans le monde, comment je pourrais faire? C'est votre choix, et vous pouvez, mais alors il faut accepter le choix, il faut accepter, pardon, le salaire qui va avec, et le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que, justement, ce que Dieu ne veut pas, c'est que nous périssions, mais ce que Dieu veut. Et c'est vrai que quelqu'un pourrait dire, mais monsieur, vous êtes bien prétentieux de connaître la volonté de Dieu. Qui êtes-vous? Bien des hommes et des femmes se sont arrachés, s'arrachent les cheveux pour connaître la volonté de Dieu. Et Et c'est ce que je veux annoncer avec force. Ce que Dieu veut, ce qui est écrit dans la Bible, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé et parviennes à la connaissance de la vérité. Quelle est-elle cette connaissance? Quelle est-elle cette vérité? De ce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Cette vérité est que Dieu vous aime. Et ce qu'il veut, c'est vous sauver, tout simplement. Il ne veut pas vous condamner, mais vous sauver. Sauver de quoi? Sauver du péché et recevoir ce don gratuit qui est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis, pourquoi Jésus et pas un autre? Parce qu'il a payé pour nous, pour vous. Il a payé la dette. Nous étions endettés et notre dette, c'est notre péché. Il a payé pour nous cette dette. Il a pris notre péché sur cette croix. Il a pris notre péché à notre place. Je voudrais terminer et conclure, s'il vous plaît. J'ai commencé ainsi par ces mots. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je voudrais, et je me permets simplement de rajouter quelques mots à ce proverbe bien connu. Tant qu'il y a Jésus dans la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y aura Jésus dans ta vie, il y aura de l'espoir. C'est le message de l'Évangile. Sans Jésus, je ne suis rien. Je voudrais qu'on ferme les yeux, s'il vous plaît, afin que je puisse prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, te bénir, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Tu es celui qui redonne de l'espoir. Tu es celui qui redonne de l'espoir à celui ou celle qui est affligé, à celui ou celle qui est profondément découragé, désespéré. Bien des hommes ont pu faire l'expérience avant. Dans les évangiles, on peut retrouver l'espoir en toi, de l'espoir, du courage en toi. Bien des hommes ici peuvent lever la main et témoigner, dire à haute voix, avant j'étais découragé, avant ma vie était en désordre, ma vie était bien embrouillée. Et un jour, j'ai rencontré Jésus et lui seul m'a redonné de l'espoir. Et Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, afin que tu puisses redonner de l'espoir aux uns et aux autres, que l'espoir, il est encore possible de le saisir cet après-midi, de retrouver la vie. La vie se trouve en Jésus. Je voudrais terminer ainsi parce que la Bible et le Seigneur nous encouragent à prier les uns pour les autres. Que s'il y a quelqu'un parmi nous qui souhaite que nous puissions, Jonathan et moi, prier pour vous, je lui demanderai de s'avancer librement afin que nous puissions prier pour vous.